aujourd'hui, les abeilles meurent principalement par les pesticides. Ensuite, après, bien sûr, arrivent d'autres facteurs. Il y a eu le varroa, il y a eu la nomémose, des choses comme ça. Mais ça, on le gère. On en parle parce qu'il faut en parler et puis que les grosses firmes aiment bien parler parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des pesticides. Mais ça, c'est pas... Il faut le suivre, il faut le gérer, mais on arrive bien à le gérer en tant qu'apiculteur. Par contre, les pesticides, on ne peut pas les gérer. C'est des milliards d'abeilles qui meurent en quelques jours.
Philippe Roy est apiculteur. Il s'est installé dans la Vienne à l'époque où l'apiculture était encore une affaire de grand-père au fond du jardin. Cette forme d'apiculture correspondait à ses attentes et il a souhaité en faire son métier. Il s'est d'abord formé auprès d'un ancien qui vendait ses ruches avant de racheter son affaire et de se lancer. Jusqu'en 2011, il récoltait encore 11 tonnes de miel avec 220 ruches. Entre-temps, le remembrement, l'agriculture intensive et l'usage intempestif des pesticides, première cause de mortalité chez les abeilles, sont passés par là. Les plantes mellifères ont disparu de plus en plus, privant les abeilles de leur principale nourriture pour faire du miel. Les écoles, qui pullulent ça et là aujourd'hui, préconisent l'emploi massif du sucre. Une hérésie totale pour Philippe Roy, qui milite pour la permaculture. Car pour lui, l'agriculture intensive ne travaille pas la terre, elle vit davantage des primes. Philippe Roy, un apiculteur engagé, un reportage signé Explore le Mag, à la prise de son et au micro, Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.
Alors je suis Philippe Roy, je suis apiculteur depuis maintenant 30 ans dans la Vienne. Mon parcours n'était pas trop destiné à l'apiculture. Je suis un homme de la nature, je la connais bien, même si on apprend tous les jours dans la nature. J'ai fait divers métiers en tant que menuisier, charpentier couvreur, ébéniste. Après j'ai été un peu dans la pétrochimie. C'est pas ma tasse de thé, mais il fallait bien se nourrir. Hein, donc, j'avais deux enfants, bas âge. J'ai connu ce que c'était. Et puis, un jour, j'ai voulu faire quelque chose de ma vie. Quoi. Donc, pour faire quelque chose de sa vie, il faut faire un grand coup de frein et puis faire un 360 degrés pour dire voilà, je reviens aux vraies valeurs. Et c'est là que je me suis mis apiculteur. Je suis né dans le Poitou, dans un petit village à 2 km d'ici, à Lavoux. Mes parents étaient agriculteurs. Comme à l'époque, il y avait beaucoup de nature aussi ici, il y avait beaucoup de chemins, d'oiseaux, tout ça, ça me plaisait bien. Et puis le fait que maintenant, après, on grandit, on fait des enfants, et puis le travail nous mène, et puis le temps passe. Et puis on ne se pose pas trop de questions, puis un jour on se réveille, on dit peut-être que j'aurais peut-être été en montagne, ça m'aurait plu. La montagne aurait beaucoup plu, maintenant avec l'âge avançant, je me dis que c'est un peu tard. Mais autrement, j'ai passé de très bons moments dans le Poitou. Depuis une trentaine d'années que je fais ce métier maintenant, quand j'ai commencé, j'étais dans les précurseurs parce que ce n'était pas vraiment un métier. On ne savait pas vraiment où nous mettre. On a fini par nous dire « vous êtes éleveur », donc on s'est parti de la MSA. Mais à l'époque, ils ont mis à peu près quelques mois avant de savoir où je devais être. Ce n'était pas un métier, c'était toujours le grand-père au fond du jardin où ça se transmettait de père en fils et qu'ils avaient 5, 6 ruches, 10 ruches, 20 ruches. Et puis on faisait après différentes choses, on mangeait du miel, il n'y avait pas le sucre qu'on trouve aujourd'hui, on en mettait pour le faire de l'autre vie, pour les choses comme ça, quoi. C'est artisanal. Et moi j'ai voulu en faire mon métier, parce que ça me plaisait d'abord, parce qu'en plus c'était accessible, parce qu'il ne fallait pas un grand nombre d'hectares. L'agriculture, quand j'ai commencé à devenir intensive, et ça ne me plaisait pas du tout, ce n'était pas ce que je voulais faire. La terre m'intéressait, mais pour la respecter, pour la protéger, quoi. L'apiculture, c'était possible, parce que il fallait investir pas forcément très beaucoup. À l'époque, quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de gens qui se séparaient de leurs ruches, des grands-pères, des choses comme ça, et qui les vendaient pour un petit prix, et je me suis monté comme ça. Donc au départ, j'ai trouvé une personne qui vendait 100 ruches, qui m'a formé un petit peu, qui était M. Amlurton de Mignosens. Et puis j'ai racheté leur affaire avec leur matériel. Je me suis lancé, ça m'a plu tout de suite. J'ai senti cette vie foisonnante. Vous savez, quand il y a 35 à 65 000 abeilles dans une ruche et que vous ouvrez cette ruche, vous sentez cette odeur et ce bourdonnement, c'est le début de la vie, quoi. Et c'est aussi une montée d'adrénaline. Donc j'en garde un beau souvenir. Et puis j'ai racheté leur entreprise. Et après, je me suis monté de 100 ruches, je suis passé à 380 ruches. Et après, j'ai fait ce métier-là. Je faisais quelques tonnes de miel. Jusqu'en 2011, j'ai fait jusqu'à 11 tonnes de miel avec 220 ruches, ce qui était déjà pas mal. Alors on faisait 3-4 hausses pleines. Jusqu'à ce niveau-là, jusqu'en 2008, 2010, il n'y avait pas trop de mortalité. Moi, j'ai connu l'époque où que les abeilles mouraient presque pas, quoi. Quelques-unes par-ci par-là, parce que des reines mouraient en fin d'année, elles n'étaient pas remplacées, ça tombait au mauvais moment. Un peu comme chez les humains, quoi. Il y en a quelques-uns qui meurent, mais beaucoup qui vivent. Les abeilles, c'était un peu comme ça. Donc, on avait des abeilles qui n'avaient pas de problème de nourrissement, parce qu'il y avait des fleurs partout, parce qu'il y avait de la nourriture partout, parce qu'il y avait encore un écosystème. Il y avait moins de pesticides, et après, les pesticides sont arrivés, les cultures intensives sont arrivées. Il y a eu déjà aussi, après-guerre, le remembrement qui a arraché beaucoup de haies. Il y avait une vie dedans, il y avait des oiseaux, mais il y avait aussi des fleurs, une floraison. Et après, est devenu les cultures, les grandes cultures. Hein. Il n'y avait plus vraiment de petites haies. Donc toute une vie déjà a commencé à s'effondrer. Et après, est arrivée l'agriculture intensive, avec tout ce qui est pesticides, désherbage systématique. Donc forcément, quand on désherbe une fleur, c'est avant qu'elle naisse ou quand elle est juste née. Donc elle ne va pas fleurir et elle ne se reproduit pas. Et si elle ne se reproduit pas, elle ne peut pas se donner de graines. Et l'année d'après, il y a des espèces de fleurs qui ont disparu. Mais des milliers et des milliers, quoi. Parce que quand on a connu, moi déjà, là où je suis, les campagnes qu'on a connues avec des patchworks de fleurs le long des chemins et tout ça, et qu'aujourd'hui, on ne voit plus que quelques pâquerettes, mais on ne voit rien d'autre, quoi. On ne voit plus de roses, de bleus, de jaunes, tout ça. Toutes ces fleurs ont disparu. Donc cette culture intensive a beaucoup abîmé, quoi. Et pas que les abeilles, parce que c'était une source de nourriture, mais aussi tout ce qui est gibier, les faisans, les perdreaux, les cailles, enfin, et tout un tas d'oiseaux, quoi, qui sont morts aussi. Enfin, avec ça, on a fait beaucoup de bêtises, quoi. À travers ça, les abeilles ont été aussi, elles, impactées. Manque de nourriture, entre les grandes cultures qui sont le colza et le tournesol. C'est-à-dire que là, oui, il y a des quantités, mais à la fois, il y a des quantités de nectar, mais il y a aussi beaucoup de pesticides de pointer dessus, quoi. Donc ça veut dire qu'elles ont aussi la nourriture et la mort qui sont là. Donc c'est compliqué. Depuis cette évolution qui a été très rapide et dont on n'arrive pas à suivre, on est en train de même s'empoisonner. Je pèse mes mots. Hein. Aujourd'hui, les abeilles meurent principalement par les pesticides. Ensuite, après, bien sûr, arrivent d'autres facteurs. Il y a eu le varroa, il y a eu la nomémose, des choses comme ça. Mais ça, on le gère. On en parle parce qu'il faut en parler et puis que les grosses firmes aiment bien parler, parce que pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas des pesticides. Mais ça, c'est pas... faut le suivre, faut le gérer, mais on arrive bien à le gérer, en tant qu'apiculteur. Par contre, les pesticides, on ne peut pas les gérer. C'est des milliards d'abeilles qui meurent en quelques jours. Des milliards et des milliards, quoi. Ensuite, après, bah forcément, il y a le changement climatique qui arrive, qui fait que ces grosses chaleurs, quand on arrive à des 40 degrés, les fleurs ne tiennent pas, elles ne donnent pas de nectar. Donc, c'est moins mellifère, donc les abeilles, elles ont chaud aussi. Il y a moins de points d'eau aussi. Hein, donc ces points d'eau qu'on a enlevés, toutes ces petites mares, tout ça, tout, elles ne sont plus là. Donc elles boivent forcément des eaux qui sont plus ou moins polluées. Hein. Donc il faut savoir que nous, si l'eau que l'on boit pour nous est polluée, et qu'on boit de l'eau polluée, on sait que c'est en dose raisonnable, mais pour un petit organisme, un centimètre et demi, c'est foudroyant, quoi, des fois. Voyez, donc il y a ça. Et puis après, il y a le frelon asiatique que tout le monde parle. Ça, c'est vrai qu'ils sont embêtants parce qu'à partir du mois de juillet, les nids sont plus gros. Et comme les chaleurs s'en vont maintenant depuis jusqu'au mois de novembre, ben, quand il n'y a plus grand chose à manger, ils se vengent sur les abeilles, quoi. Et là, c'est un gros fléau, quoi. Mais le départ, c'est les pesticides. Donc la pesticide, changement climatique et changement climatique qui amène ben, des invasions de prédateurs comme le frelon asiatique. Donc ce qui fait que dernière récolte que moi j'ai faite avec quand même des cultures intensives, en 2011, j'ai fait 11 tonnes de miel avec 210 ruches. Je parle de miel, hein, je ne parle pas de sucre. Hein. Les abeilles, c'est un gros sportif, donc il faut une nourriture énergétique. Donc le pollen, qui est une source multivitaminée, et le miel, qui vont chercher le nectar dans les fleurs. Et ce nectar, elles le transforment après entre elles. Elles vont déglutir, se l'absorber et déglutir en se léchant plusieurs fois. Et là, c'est là qu'elles vont faire le patin d'ailleurs entre le nectar, qu'elles vont ingurgiter et ressortir une substance qui est hyper énergétique de protéines, vitamines, glucides, acides aminés, pour renforcer ce nectar. Et elle va faire un élément qui se reviendra le miel, qui sera trois quarts végétal et un quart animal. Et comme c'est des grands sportifs, il faut absolument une nourriture très énergétique qui est le pollen et le nectar, travaillé par les abeilles. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de... Enfin, je vais le dire quand même, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais il faut savoir aujourd'hui que même en France, ils s'emploient des centaines de tonnes de sucre dans l'apiculture. Donc comme les abeilles, ce n'est pas des vaches, elles ne mangent pas beaucoup de sucre, mais ça les maintient, ils passent où le reste ? À se poser la question. Le sucre ne sera jamais travaillé, c'est un leurre qui les maintient vivantes, momentanément, qui fait pondre la reine artificiellement, parce que pour elle, abondance de nourriture, donc de 500 œufs est passé à 3000 œufs par jour. Mais c'est un leurre parce que toutes ces futures abeilles vont être nourries avec des produits de bas de gamme, Et comme c'est des grands sportifs, elles feront quelques mois, puis elles mourront à leur tour. Et l'être humain s'amuse à ça, aujourd'hui, à refaire des essaims, alors que quand les essaims, autrefois, on a toujours fait des essaims au mois de mars, pour que la floraison commence, pour que les abeilles puissent commencer à prendre les premières fleurs, les premiers pollens, qu'elles aient le temps de faire de la cire, et d'emmagasiner pendant les 5 mois à venir, qu'elles ont presque 5 mois à faire du miel, hein, tout le reste, c'est le mois de 17, hein, et refaire des quantités pour qu'elles puissent survivre pendant les longs mois d'hiver, qui sont octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc tout ça, il faut absolument qu'elles fassent des réserves pour pouvoir se nourrir l'hiver. Le reste du temps, après, elles se mettent en léthargie. Et si elles ont du sucre, et bien forcément, ce sucre, ça ne les maintient pas, quoi. Puis ça leur fait des carences. Et ces petits qui vont naître avec des carences, ben les porteront toute leur vie, quoi. Et c'est des abeilles qui vont naître, mais qui vont faire quelques mois. Et ça ne durera pas. Il faut absolument que tout le monde se mobilise. Pas que pour nous, mais aussi pour nos enfants. Pour la nature, pour notre terre-mère, qui, elle, elle a besoin de nous. Donc si on se mobilise et que l'union fait la force, eh bien, faut pas attendre que les hommes d'État fassent quelque chose. Ils y connaissent rien. Ils connaissent les chiffres. Mais par contre, au niveau de la nature, ils ne connaissent rien. L'argent passera avant le raisonné. Donc, si on veut sauver ce qui nous reste aujourd'hui, c'est encore faisable, c'est protéger des lieux, revoir une agriculture. Une agriculture intensive ne marche plus. La preuve, parce qu'il faut leur donner de l'argent pour qu'ils mettent des poisons pour nous empoisonner. Et ils ne s'en rendent même pas compte, c'est parce qu'ils ont tellement besoin de primes, ils sont tellement loin que pour eux, c'est des médicaments. Mais ces médicaments s'en vont dans l'eau, s'en vont dans l'air. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de cancers de partout, quoi. Et ça, on le voit partout. Et on a perdu, je ne sais pas combien d'insectes et d'oiseaux, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut des petites structures en bio, mais des petites structures, et puis aider ces structures à faire de la qualité. Au lieu de donner des primes à des gens qui mettent des pesticides, et respecter la terre. Une voix toute bête qui dit, voilà, fini les primes aux grandes surfaces. Aujourd'hui, nous allons donner des primes en faisant une analyse de sol. Et chaque exploitation aura des analyses de sol, et plus les sols seront sains, plus vous aurez de primes, et plus les sols seront gorgés de pesticides, et plus on diminuera vos primes. On ne peut pas travailler contre la terre. On ne peut pas dire, si on tue les nuisibles qui mangent des insectes, ces insectes-là, il faudra donner plus de doses de pesticides, ce qu'ils appellent des envahisseurs pour les cultures. Aujourd'hui, on emploie de plus en plus de pesticides, quoi. Et on n'est pas au courant de tout. Les abeilles, elles n'ont pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elles. Elles pollinisent 87% de la planète. Tout ce qui nous entoure a été pollinisé par les abeilles, des milliers d'années avant nous, avant qu'on arrive, pour qu'on puisse respirer un air sain, se nourrir et vivre dans une nature luxuriante. Tout ça, c'est le partenariat entre les végétaux, les fleurs et les abeilles avant qu'on arrive sur Terre. Et on a tout, on a tout. Comme disent pas qu'on ne peut pas nourrir la planète, il y a des terres aujourd'hui qui sont gelées, on donne des primes à l'herbage, ça ne va rien ces terres-là. Il y a de quoi nourrir la planète, et en quantité, mais il faut travailler intelligemment et faire de la permaculture. Et là, ça marche. Et il y a plein de gens qui l'ont prouvé. Comme quoi, on peut en vivre, on en vit même bien, et on respecte le vivant. Donc, on a les solutions. Il faut juste que maintenant, des gens arrêtent d'être trop instruits, mais deviennent intelligents. Et j'ai rien contre l'instruction. Hein. Sauf que l'intelligence, on n'en veut plus parce que c'est des obéissances. J'ai pas de solution. Hein. La seule solution que j'aurais, c'est de devenir malhonnête comme les autres, c'est de les employer du sucre, mettre aux abeilles. J'ai pas envie de faire ça. D'abord parce que le sucre, c'est pas bon. C'est pas bon d'abord pour les abeilles parce que c'est pas normal. Et puis, j'ai pas envie de faire manger ça à mes clients. Je suis quelqu'un d'honnête. Donc la seule solution, c'est d'assister à tout ça et puis dire voilà, bah oui, ça meurt. On ne veut plus en parler, comme ça il n'y a plus de problème. Et comme il y a des tonnes de sucre maintenant qui arrivent, en même temps, soi-disant miel, mais c'est du sucre, on fait manger ça aux gens, et que c'est caché, c'est passé sous silence, et bah, tout va bien. Et les gens achètent du miel à 5 euros, 9 euros le kilo. C'est pas possible. On n'en fait presque plus de vrai miel. C'est devenu une denrée rare et de luxe. Bien sûr qu'il y a d'autres petits problèmes, le varroa, l'anomémose, le frelon asiatique. Effectivement, ça se greffe et ça finit par faire beaucoup. Elles sont agressées un peu de partout. Mais le principal problème, c'est l'agriculture intensive qui a fait disparaître toutes les fleurs, parce que toutes ces fleurs, vous voyez, c'est pas crête, par exemple, vous en voyez plein là. Mais ça, ça ne donne pas de nectar. Hein. Vous avez des plantes mellifères et d'autres qui n'y sont pas. Donc il y a un quart de plantes mellifères et trois quarts de plantes qui ne sont pas mellifères. Elles ont toutes du pollen, mais elles n'ont pas toutes du nectar. Tout ce qui est légumineuse, graminées non, mais tout ce qui est légumineuse, trèfle, luzerne, sainfoin, facély, mélilo, toutes ces plantes qui étaient appétantes et qui donnaient de l'azote naturel dans le sol, qui faisaient pousser aussi les autres plantes et qui étaient très appétantes pour les animaux. Vous avez tout ce qui est plantes aromatiques, la lavande, le thym, le romarin, le colza. C'est une monoculture qui était des herbes au glyphosate. Donc il n'y a plus de vivants au-dessous et en-dessus. Donc ils ont tué tout. Donc la terre n'est plus qu'un élément porteur. Et après, on lui amène tout ce qu'il faut, artificiellement et avec les traitements qu'il faut. Je ne sais pas combien de traitements sur un colza, mais il y a beaucoup de traitements sur un colza. La terre aujourd'hui, pour les grands céréaliers, c'est devenu un élément porteur. C'est juste pour planter, pour avoir de la surface, mais on ne la nourrit pas, on ne la fait rien, quoi. Dernièrement, là, j'ai vu des agriculteurs, je me suis dit, tiens, ils ont fait quelque chose de bien cette année. Ils avaient mis du couvert et du verre. et minces jusqu'avant qui sont arrivées avec du glyphosate. On ne sait pas pourquoi, parce qu'on veut éviter le binage. On va éviter que les mauvaises herbes poussent. Et comme on a 300 hectares, on ne peut pas tout faire. La solution miracle, c'est le glyphosate. Parce que le glyphosate, en 3 jours de temps, on a tout nettoyé. Le dessous, le dessus, et après, on peut planter, on ne s'en occupe plus. Alors que non, c'est pas ça la terre. La terre, ça se travaille. Donc c'est la solution miracle pour avoir 300 hectares. C'est juste pour avoir de l'intensif. Pour que les gens aient de plus en plus de grandes parcelles. Pour qu'ils puissent arriver à le faire avec 3 tracteurs pour une personne. Alors qu'avant, avec une ferme de 35 hectares, vous aviez 4 ou 5 couples qui élevaient leurs enfants dessus et qui vivaient. C'était dur, certes, mais ils vivaient et ils élevaient leurs enfants avec de la qualité. Et il y avait beaucoup moins de cancers aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Les bois nous sauvent, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des directives sur le bois où ils sont quand même assez protégés dans certaines communes. On n'a pas le droit d'abattre comme on veut. Et c'est très bien, soit placé, soit classé, soit protégé. Mais c'est grand temps, parce que par rapport aux grandes plaines, ils ne sont pas assez nombreux non plus, parce qu'ils donnent de l'oxygène. Et c'est un refuge aussi pour les oiseaux. Il va bien falloir que les oiseaux se posent quelque part un jour. Hein. Et bien, il va falloir aussi pour les abeilles qui sont dans leur ruche de l'ombre. Quand il fait très chaud. Et ils ne sont pas assez grands pour pouvoir être garantis des pesticides, quoi, parce qu'aujourd'hui, les pesticides, on ne peut pas y échapper. Hein. L'abeille, c'est un insecte bio. Je le mets entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle choisit sa fleur, sa plante et son nectar. Elle travaille pour l'ensemble de la ruche, pas que pour elle. Donc elle va chercher le nectar, elle le travaille, elle le stocke pour pouvoir assurer la propriété de l'espèce. Donc elle détecte s'il y avait un petit taux de pesticides dans le miel, ça ne serait pas plus que dans vos cheveux. Après, pour l'abeille, c'est un impact quand c'est en grande quantité, parce que non seulement il y a de moins en moins de fleurs, mais si en plus il y a des produits dessus qu'elles ne peuvent pas y aller, parce qu'elles ont détecté, c'est encore une carence de nourriture en moins. Donc, et comme les cycles de floraison sont courts entre le colza et le tournesol, et qu'entre deux, il n'y a quasiment plus rien, ou des grosses chaleurs qui grillent tout, ça ne reste pas grand-chose, hein, il n'y avait pas grand temps. De tout temps, il s'est fait de la transhumance, hein. Mais autrefois, il y avait beaucoup de fleurs. Ce qui est un peu normal, si un apiculteur va faire manger du miel de lavande à ses clients, il va bien falloir qu'il aille dans le Midi. S'il veut faire manger de la bruyère, il va bien falloir qu'il aille en Bretagne. Donc c'est de la dépense, c'est du temps à passer, mais on peut transhumer. Le problème, c'est comme ça coûte cher, on a tendance à vouloir emmener des essaims qui sont très forts, et pour les rendre très forts, beaucoup de gens qui font de la transhumance, qui sont professionnels, nourrissent au sucre avant. Des essaims, quand ils arrivent sur place, comme ça leur coûte très cher, qu'ils soient optimales pour pouvoir faire un maximum de pollinisation. Quoi. La transhumance en elle-même, soit, hein, on transhume pour faire différents miels, mais après, de la manière dont on s'y prend, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, les jeunes apiculteurs vont dans les écoles. Avant, il n'y avait pas d'école. On apprenait sur le tas. C'est un métier manuel, c'est un métier de visuel, c'est un métier de nature. On apprend tout. Et là, maintenant, on va à l'école parce qu'il faut que ça gagne de l'argent. Donc, il faut aussi faire un bilan. Et pour faire un bilan, comme il n'y a presque plus de fleurs et que les abeilles meurent, il faut dire, voilà, et ben, on leur dit de mettre du sucre aux abeilles. Parce qu'il faut faire du business. Parce que non seulement le miel ne les fera pas vivre, mais en plus, il faut qu'ils fassent des essaims, beaucoup d'essaims, pour pouvoir les vendre. Et on multiplie les abeilles, c'est devenu des cheptels intensifs. On peut multiplier une ruche par 3 ou 4. Et puis on lui met du sucre, des antibiotiques, et puis on les dope. Et puis on vous dit, oh, ça y est, j'ai réussi tout, j'ai plein d'abeilles, moi j'ai plein d'abeilles. Oui, ils ont plein d'abeilles, effectivement, ils ont plein d'abeilles. Ces abeilles font très peu de miel, ou des fois ils meurent prématurément. Mais ils en ont tout le temps. C'est devenu un brassage d'abeilles, quoi. Une abeille n'est pas faite pour aller sur un nourrisseur, dans sa ruche, chercher du sucre, puis le redescendre. Elle est faite pour aller à 3 km de distance, pour aller polliniser les fleurs et se nourrir de nectar. Et différents pollens et différents nectars que la nature a conçus pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'il faut en nourriture de qualité. L'apiculture, je ne suis plus dedans, moi. Je suis un ancien apiculteur, j'ai le respect de la nature, jamais je mettrai ça aux abeilles. Pour vous répondre, je pense que quelqu'un qui met du sucre aux abeilles, c'est le même qui met du glyphosate dans son jardin pour faire un jardin. Ben, il ferait mieux d'acheter ses légumes. Déjà, il faut savoir qu'on a 4 ou 5 récoltes dans le Poitou. La première, on va toujours commencer par le colza, qui ne sera pas forcément que du colza, il y aura du merisier, de l'aubépine, c'est au mois d'avril, mai. Hein. Ensuite, après, on va faire l'acacia. Si on attend un petit peu, des fois, il peut y avoir acacia chèvrefeuille, un miel sauvage, un truc comme ça, qui reste assez liquide. Tout ce qui est liquide, c'est en hauteur. Tous ces miels liquides restent en hauteur, les arbres. Tout ce qui est crémeux, on l'extrait liquide, mais devient consistant, c'est les fleurs d'en bas. Après l'acacia, qui est le deuxième, on sera rendu déjà fin mai, début juin. Après, on va faire un toute fleur. C'est-à-dire que là, il y a une explosion des fleurs partout dans la nature. Et jusqu'au début juillet, tout le mois de juin, début juillet, là, il va y avoir tellement de fleurs qu'on va l'appeler ça un toute fleur, multifloral. Là, il y a des miels déjà qui seront plus prononcés déjà, plus en goût, moins clair. Après, il y aura juillet-août, où là, vous aurez les châtaigniers, les sapins qui vont fleurir. Pas forcément jaune ou rouge, hein, mais il y a du nectar dedans. Et là, ça donnera des miels beaucoup plus marqués, beaucoup plus corsés. Puis après, on arrivera fin août, début septembre, où le tournesol arrivera. Le tournesol, il sera la couleur de la fleur. Il sera jaune. Et comme c'est des fleurs d'ambroise, il sera crémeux. Pour avoir ces différents goûts, eh ben, faut suivre la nature. C'est-à-dire que du mois d'avril au mois de septembre, vous n'aurez pas les mêmes floraisons, et pas les mêmes fleurs, pas les mêmes nectars. Pas les mêmes hectares, pas les mêmes goûts, les mêmes aspects et les mêmes couleurs. Et ça, il faut vraiment regarder la floraison, parce qu'une année et l'autre, ça peut changer de 15 jours à 3 semaines, voire des fois un mois. Et il faut bien regarder la nature, bien regarder où on en est dans la floraison, pour aller chercher ses miels au fur et à mesure, pour pas qu'ils se mélangent. Mais ça n'empêche pas que le miel a baissé de qualité. J'ai connu des miels, il y a une vingtaine d'années arrière, qui étaient bien meilleurs que maintenant. Même s'ils sont encore bons, mais j'ai connu des miels qui étaient exceptionnels, qu'on ne voit plus. On n'a plus ces saveurs. D'ailleurs, autrefois, on faisait du miel de trèfle, de luzerne, de sainfoin. De la luzerne, aujourd'hui, on en voit plein qui est fleuri pour faire de la graine. On ne fait plus un brin de nectar de luzerne. C'est fini, elle n'est plus mellifère. Parce que la science est passée là-dedans, a voulu faire des plantes plus renforcées pour, contre les maladies, contre la cuscute, des choses comme ça. Et en voulant faire des plantes beaucoup plus fortes, elle ne s'est pas occupée si elle était mellifère ou pas. On a trouvé une nouvelle variété, belle feuille, n'importe quoi, et elle est plus mellifère. Quand on fait de la recherche, il faudrait faire aussi de la connaissance naturelle. Ou alors aller voir des gens qui sont des naturalistes ou des gens qui ont de la connaissance et qu'il y a un partenariat entre celui qui fait de la recherche et celui qui a de la connaissance. Mélanger tout ça en disant « Papa, c'est bien de faire comme ça, mais là attention, si tu fais ça, il y a tel oiseau, tel insecte, tel cela qui ne va plus en vivre ou ça va le faire mourir. Donc qu'est-ce que tu comptes faire ? Ça serait génial. » Voilà comment on fait des miels de qualité assez constante, mais parce que c'est la saison qui donne la fleur. Et chaque saison a des fleurs bien spéciales, bien, bien, à condition qu'on aille chercher au fur et à mesure. La dernière récolte que j'ai faite en 2011, c'était avec quand même de l'intensif, quand même avec beaucoup de colza. Mais après, j'avais eu quand même une belle récolte, parce qu'il faut quand même savoir, quand même, plus il fait chaud, enfin, si on a des belles températures au mois d'avril-mai, on fera du miel quand même, parce que le colza est important. Mais en 2011, effectivement, j'ai fait 11 tonnes de miel. Depuis, ça n'a pas arrêté de baisser, à part les années où il fait chaud. Et aujourd'hui, quand je fais une récolte de 3 tonnes et demi, 4 tonnes, c'est une belle année. C'est une très belle année. C'est plus souvent moins que ça. De 11 tonnes en 2011, je suis rendu à 3-4 tonnes. En faisant que du vrai miel, je ne mets pas de sucre du tout. Hein. Du vrai nectar. Parce que ça va toujours de baissant. Parce que le changement climatique aussi a un impact. Depuis quelques années, avec 210 ruches, 220 ruches, c'est ce qu'il nous faut pour avoir droit à exercer la MSA. Mais par contre, si on dédouble nos ruches, qui sont déjà pas très nombreuses, on ne va pas faire de miel. Donc on ne peut pas vivre. Donc j'ai essayé d'acheter des essaims chez des collègues qui nourrissaient. J'avais des doutes. C'était de nouveau au miel parce qu'il avait plein à vendre. Donc j'ai acheté 40-50 ruches, ça coûte les yeux de la tête, des milliers d'euros. Et 6 mois après, j'avais plus de ruches, elles sont toutes mortes, elles sont pas tenues le coup. Quoi. Elles étaient belles quand ils me les ont vendues. Mais après, c'est fini, ça ne dure pas longtemps. Donc on est coincé. Aujourd'hui, j'ai pas la solution. Aujourd'hui, il faut vraiment mettre un coup de frein à tout. Je sais bien que ça va être dur pour l'être humain. C'est pas évident d'arrêter le monde qui vadrouille de partout. Et en plus, les gens se sont sortis de la nature un maximum du temps, donc ils connaissent très peu de choses. Et c'est bien dommage parce que quand on connaît, on s'intéresse et on voit la gravité de la chose. Si on ne met pas un grand coup de frein, ça va impacter tout le monde, on va droit dans le mur. Hein. Donc, et moi, je n'ai pas la solution. Si les seules solutions que je vois qui ont, entre guillemets, marché, c'est la transgression des règles. Mais on ne va pas à la source du problème. On ne l'a pas résolu, on le contourne pour faire autre chose. Donc, je n'ai pas de solution, hormis qu'avoir foi en l'être humain. Nos enfants, aujourd'hui, on leur apprend le bio, on leur apprend à mieux manger, on refait des sorties scolaires à la nature, on va faire du jardin, du jardinage, on leur apprend à écouter les oiseaux. Ils sont dedans, là, eux. Ils entendent parler des produits, des pesticides, de ceci, de cela. Et ils le disent à leurs parents. Donc c'est une génération, j'ai foi en eux. Donc cette génération va dire, plus jamais ça, on n'en veut pas. Je souhaite, hein. Mais j'en connais plein, ils sont vraiment très intéressants. Et même des plus vieux, maintenant, qui ne sont même plus à l'école, mais maintenant qui sont à leur compte, qui se mettent en bio, et c'est des jeunes bosseurs, travailleurs, avec des convictions de vie, une honnêteté à toute épreuve. Ils vont y arriver, hein. Mais il faut que l'État les aide, hein. Faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. Je pourrais dire à tous les jeunes que je rencontre, soit il magouille comme les autres, il met du sucre, il va faire du business, soit il reste honnête. S'il reste honnête, avec le taux de pesticides qu'il y a, s'il achète 200 ruches, il faut qu'il s'attende à une année, une autre, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, qu'il y a plus de la moitié qui crève. Il faut avoir les reins solides. Et pour en vivre, c'est pas facile, parce que les factures, faut les payer. Moi, j'ai connu une époque où elle mourait beaucoup. J'étais jusqu'au bout, tant bien que mal. Aujourd'hui, je lui dirais, si tu veux rester honnête, fais des abeilles. Ça va t'apporter beaucoup. Mais fais pas que des abeilles. Fais autre chose à côté. Fais plusieurs métiers. Tu risques d'être déçu. Parce que t'es tributaire de l'agrochimie, de la pétrochimie, des gens qui te procèdent les terres. Et pour l'instant, ça va près de s'arrêter. Donc, tu pourras pas vivre. Je pourrais dire à tous les jeunes que je rencontre, et Dieu sait s'il y en a beaucoup qui viennent me voir, travaillez, faites un peu d'argent. Dans ce monde, c'est ce qui fait la nerf de la guerre, même si c'est pas très beau, mais c'est comme ça. Et quand vous aurez l'occasion, achetez un lieu pour vous. Vous serez le gardien. Et puis, ça vous nourrira un jour. Et ça, c'est noble. C'est même dans l'extrémiste, hein. C'est-à-dire travailler avec le vivant en respectant la terre, pas continuer à travailler comme on fait là, vouloir faire de l'exportation, de l'importation, et puis nourrir à outrance pour des lobbies qui sont horribles, qu'on n'a rien à foutre de nous. Ce qu'ils veulent, c'est du business et de l'argent. On ne peut pas continuer comme ça. En plus, je suis une génération, là, je suis la dernière génération où j'ai vu les campagnes d'autrefois. Il y a 50 ans, c'était magnifique, c'était encore joli, c'était encore beau. Il y avait des sauterelles partout, il y avait des papillons partout, il y avait des nids d'oiseaux partout. Vous entendez beaucoup d'oiseaux, vous, ici, là? On n'entend pas beaucoup, hein. Autrefois, c'était partout qu'il y avait des oiseaux et des nids partout dans toutes les branches. Ça a été très vite. Là, on a été trop vite. On a tout dévasté, on n'a rien de temps. Il n'y a pas 200 ans, il y a 50 ans. Et moi, je l'ai vu. Mais si je leur dis pas, qui leur dira? L'homme vivait de la terre. Maintenant, il vit des primes. Qu'est-ce que c'est de bordel, hein, tout en la tuant? C'est pas possible. On marche sur la tête. Et quelques-uns, j'ai très bon rapport avec eux. Avec quelques-uns aussi qui sont, je veux pas être méchant, on va dire raisonner. Le mot raisonner, je sais pas ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un bon repas, je ne mangerai pas de fromage, mais demain, j'en mangerai cette part. J'ai raisonné. J'en connais quelques-uns qui sont gentils quand même. Les trois quarts sont très fermés. Ils savent ce qu'ils font. Ils baissent la tête quand ils vous voient. Ils vous aiment pas du tout. Ils sont entre eux, quoi. Entre FNSEA, JA, c'est un monde à part. Les seuls gens qu'ils côtoient, c'est peut-être les chasseurs. Puis encore, je ne sais pas trop, parce qu'ils vont sur leur terre. Je suis dans l'extrême un peu, là, mais c'est la vérité, hein, ce que je vous dis. Hein. Faut dire un chat, un chat. Mais autrement, c'est des gens, ils ne nous aiment pas beaucoup. Mais quelques-uns sont, ouais, veulent en sortir, quelques-uns sont sympas, prêts à évoluer. Mais après, tous les jeunes qui sont en bio, que je vois arriver là, chez nous, là, qui font des chèvres en bio, qui se sont mis à leur compte, là, c'est des bosseurs. Ils sont profondément convaincus, ils font de la qualité. Ils ont. Génial, génial. Putain, des jeunes qui se mettent en bio et puis qui vont vous donner de la vie, quoi. Des chèvres dehors qui vont au pâturage. Moi, ça faisait 40 ans que j'ai pas vu ça. Les troncards, ils sont en stabulation. Ils sortent jamais. C'est de la souffrance animale. Hein. Donc, ouais, je suis bien avec eux, ouais. Ouais. Puis il y a quelques-uns d'autres qui sont pas mal. Puis il y en a d'autres, non, je peux pas. Hein, parce que d'abord, ils font rien pour. S'ils peuvent arracher le chemin, ils arrachent le chemin. S'ils peuvent vous esquinter un bout de grillage, ils vous laissent un tronc de grillage. Mais eux, ils sont partout chez eux, quoi. Ils peuvent voir personne, quoi. Puis ils baissent la tête surtout. Ils ont pas envie de parler parce que. Ils sont pas trop bêtes quand même, ils savent ce qu'ils font, quoi. Mais c'est au nom de l'argent, c'est pas au nom du respect de l'autre. C'est dommage, hein, parce qu'en dialoguant, on pourrait faire des choses. Tout en leur disant, pourquoi vous faites ça? Ils vont vous dire, parce que la loi m'autorise. Mais la loi, elle est mauvaise, quoi. Elle est en train de nous empoisonner, la loi. Donc vous, en tant qu'homme, qu'est-ce que vous voulez être? Est-ce que vous voulez faire ça? En tout cas, mais parce que la loi vous l'autorise, vous êtes capable de traiter autour d'une école ou que les gens, quand ils vous voient arriver, ils rentrent chez eux, puis il faut qu'ils rentrent au linge, et puis que pendant 6 mois après, ils l'auront encore en train de respirer. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Est-ce que vous vous posez cette question? Je sais pas. J'arrive pas à comprendre cet être humain. Comment ça se fait qu'il peut faire ça? C'est autorisé, je le fais. C'est nocif, bon sang.
C'était Philippe Roy, un apiculteur engagé, un reportage signé Explore le Mag. À la prise de son et au mixage, Frédéric Mineur. Explore le Mag est un média en ligne. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur explorelemag.fr.